Bien, chers amis, nous attendons donc Roland Lehoucq. Je pense qu'il a peur de m'affronter. Voilà. Donc, je pense qu'il a peur que les lois scientifiques cèdent devant les lois juridiques. Je serais quand même extrêmement déçu par un forfait. Mais bon. Non, il arrive, hein, bien sûr. Bon, on attend toujours le président. C'est la marque des grands hommes hein, que de se faire attendre. En attendant, ben, je vous remercie tous pour votre présence au festival. En tant que délégué artistique, pour moi, c'est une grande satisfaction de voir autant de monde, autant de personnes fidèles aux Utopiales. Donc on a essayé de vous faire une programmation qui soit à la hauteur de vos attentes et de vos espérances, avec encore pas mal de surprises hein, qui vous attendent, jusqu'à la cérémonie de remise des prix ce soir. Prix littéraire et prix bande dessinée, jeunesse, etc. Vous avez aussi, je vous rappelle, hein, je fais un peu la pub en attendant, hein, pas mal de films qui sont à votre disposition, avec un petit événement tout à l'heure, à 13h15, avec Albator. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés chercher leur contre-marque. Qui a ses contre-marques ? Levez la main. Ok, moi, ouais, ça va. Donc, il n'y a que 800 places, mais je pense que ça va bien se passer. J'espère que le film, que moi je n'ai pas encore vu, est à la hauteur vraiment de, ses, de sa réputation et de, son, de ses antécédents. Je précise aussi que vous avez le commentaire, enfin le commentaire, pardon, le documentaire sur le Dune de Jodorowsky. Et puis, puisque ce n'est pas marqué dans le programme en fait, hein, j'ajoute aussi, c'est vrai que c'est l'occasion de vous le dire, qu'à 14h ici même, en espace Hetzel, vous avez une rencontre avec Chris Foss. Chris Foss, c'est un illustrateur britannique qui a été extrêmement important en France, notamment dans les années 70-80, et qui vient vraiment exceptionnellement, il devait pas être là au départ, il vient pour parler donc justement du documentaire sur le Dune de Jodorowsky, auquel il avait contribué, au projet pharaonique auquel il avait contribué, et il sera avec moi tout à l'heure à 14h ici pour une rencontre exceptionnelle, avec des livres, on a eu du mal à avoir ces livres, à avoir ces albums d'illustration. Et donc il en a amené quelques-uns, donc il y aura quelques rares personnes, rarissimes personnes, qui pourront les, en avoir un exemplaire, et un exemplaire signé évidemment de l'auteur. Et là, ce que vous entendez derrière, c'est la voix de Roland Lehoucq. Et vous savez qui arrête d'habitude les gens qui parlent au-delà de leur temps ? Ben, c'est moi. Et comme je suis là, personne ne va l'arrêter. Donc il y a deux choses l'une. Ah, peut-être. Peut-être. Si véritablement c'était un physicien à la hauteur, il serait à la fois là-bas et ici. Je suis un peu déçu. Je vais lui dire d'ailleurs dès qu'il arrive. On va lui faire une blague, vous allez voir, dès qu'il arrive. Donc je vais vous dire, et c'est ainsi que j'ai démontré donc la supériorité des lois juridiques sur les lois physiques, et vous applaudissez, d'accord ? Non, mais quand il arrive. Et donc c'est ainsi que j'ai démontré la supériorité des lois juridiques sur les lois physiques. Merci de votre attention. Alors, merci.
Je m'inscris immédiatement en faux, parce que les lois juridiques...
Les absents ont toujours tort.
Ah non, mais je suis là maintenant. Bon, alors excusez-moi.
Assieds-toi.
J'étais pris dans une autre table ronde passionnante.
Oui. Bon.
Enfin, celle-ci sera aussi passionnante, hein, normalement. Bon, alors vas-y, Hugo, parce que t'as commencé, je te laisse poursuivre, et moi je réveille.
Bah, moi, c'est bon, j'ai fini. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la rigueur, la cohérence des lois juridiques montrent pleinement que la physique n'est pas à la hauteur, tout simplement. Alors, pour être sérieux, 5 minutes. Bon, on peut rigoler aussi, hein, ça, quand même, on est là aussi pour raison, s'amuser.
Bah, j'espère qu'on voilà. Se marrait bien là-bas. Enfin, vous n'étiez pas vous. Hein,
mais... Et vous êtes mal barré parce qu'il n'y a pas de modérateur. Donc, on va
s'auto-modérer.
C'est ça.
Et vous voyez, quand on est modéré, on peut devenir...
C'est bien parti. Bien, alors on a voulu ce petit débat entre nous, parce que d'abord on se connaît bien, et donc c'est pour ça qu'on s'est permis donc d'insérer ce petit débat. Et puis parce que bah, finalement, créer des autres mondes ou interpréter l'existence d'autres mondes, c'est aussi leur donner des lois. leur donner un ordonnancement, et que cet ordonnancement peut être aussi bien physique que juridique. Et donc, il nous a semblé que nos deux spécialités, puisque ce qui nous réunit, c'est la passion et l'amour de la science-fiction, évidemment, mais que nos deux spécialités pouvaient trouver à s'entendre ou à s'affronter. Alors, on a titré donc ça « loi juridique versus loi physique », mais le « versus » doit être évidemment interprété de manière large. Alors, ce qu'on va vous proposer, à la lumière aussi d'exemples de science-fiction, c'est de voir si véritablement, comme on le croit habituellement, ou comme on l'entend souvent, ou comme on le lit souvent dans la presse, si véritablement le droit est la plus scientifique des sciences humaines. On le lit souvent, on l'entend souvent. Et si véritablement la rationalité du droit, à travers l'imaginaire aussi, dans sa présence en imaginaire, fait de lui quelque chose qui contribuerait à la partie science du mot science-fiction. Et puis Roland, de son côté, essaiera aussi peut-être de confronter les définitions des lois physiques avec les lois juridiques et voir si véritablement il y a conjonction. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tout auteur de science-fiction, lorsqu'il crée un monde, notamment lorsqu'il s'agit d'un monde rationnel, un monde de science-fiction, que ce soit par exemple un planète-opéra ou un space-opéra, ou que ce soit tout simplement une analyse du futur proche, eh bien, tout auteur de science-fiction, dans son acte créateur, est confronté à la nécessité de se poser la question des systèmes juridiques des sociétés qu'il met en place et des lois physiques que ces univers vont suivre ou adopter. Alors, en général, pour commencer comme ça, on va dire, en général, l'auteur de science-fiction qui veut écrire de la science-fiction et pas plutôt du fantastique ou de la pure fantasy, va partir du postulat que les lois physiques de son univers sont les mêmes que les lois physiques du monde réel. Et ce en quoi il se trouve considérablement moins libre par rapport à la physique que par rapport au droit, puisqu'on sait très bien qu'il y a, depuis Montesquieu, une grande diversité de systèmes juridiques. Et donc, moi, je prétends que la physique plombe l'auteur de science-fiction, puisqu'il n'a pas la liberté d'imaginer d'autres lois que celles du monde réel.
Alors, bon, il la prend, cette liberté, quand même, évidemment, parce que sinon, il y a des choses qu'il ne pourrait pas faire et qu'il a envie de faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait considérer, d'une certaine façon, qu'on est contraint par la nature. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas, en tout cas pour l'instant, sauter en l'air et ça suffirait pour aller dans l'espace. Ça serait pas mal. Il faut sauter assez fort avec une fusée, ça c'est possible, mais c'est plus nous qui pouvons le faire. On peut pas, en tout cas dans le cadre actuel, dépasser les vitesses de la lumière. Il semble qu'il y a une vitesse maximum. Alors les auteurs de science-fiction s'embarrassent pas de ce genre de détails, puisque ils ont besoin souvent d'aller plus vite que la lumière. Mais parce que si vous voulez faire un empire galactique, par exemple, et vous voulez que si la planète Zorglub vous pose des problèmes parce qu'il y a une sédition, ils voulaient intervenir en moins de 150 ans. Ben, il faut quand même aller assez vite pour agir sur place. Donc ils se permettent évidemment s'affranchir de certains lois de la physique. On pourrait évidemment penser que les lois de la physique contraignent, mais en fait en même temps, les lois de la physique, elles permettent des choses. Ça veut dire qu'une fois qu'on les connaît, une fois qu'on connaît la façon dont fonctionne la nature, si on le connaît suffisamment bien, alors évidemment ce suffisamment bien a évolué au fil de l'histoire, au fil du temps, si on les connaît suffisamment bien, à la limite, on fait des choses qui étaient inenvisageables à d'autres époques. Par exemple, voler, pour un humain, était quelque chose longtemps imaginé comme impossible. Alors on imaginait des tas de choses. Il y a des gens qui ont tenté, hein, le coup des ailes accrochées au bras et je me jette d'une montagne et j'essaie ça ne marche pas. Il y en a plein qui l'ont payé de leur vie. Donc voler, voilà un rêve qui aurait pu être une époque, celui d'une histoire de science-fiction. Bon, la science-fiction n'existait pas en tant que telle à cette époque-là, mais à ces époques-là. Mais voilà un rêve qui aurait pu être de la science-fiction. Et puis qui a été réalisé finalement grâce à la science, une fois qu'on a compris comment on pouvait faire pour voler. Alors évidemment, pas comme font les oiseaux, pas en se mettant un système qui ressemble à les ailes d'oiseaux avec d'autres machines, mais on a pu voler. Et donc la science, évidemment, si elle contraint, si vous êtes capable aussi de maîtriser ces contraintes, d'en tirer parti, vous pouvez en tirer parti à votre avantage, à votre profit, pour réaliser des choses qui ont pu être imaginées comme impossibles ou difficiles ou relevant d'un rêve impossible et qui finalement sont réalisables. Donc évidemment, il y a des contraintes. La science impose un certain nombre de contraintes. Je dis la science, pas la science, c'est la nature finalement impose un certain nombre de contraintes. On ne peut pas tout faire, mais quand on a compris un certain nombre de règles et quand on les a suffisamment intégrées et traduites en objets techniques, alors on peut faire des choses qui paraissent incroyables. Donc, effectivement, les auteurs de science-fiction, il y a parfois des contraintes, disons, de la nature qui sont si fortes qu'elles les gênent, qu'elles les empêchent de faire des choses qui leur paraissent soit belles, soit divertissantes, soit simplement nécessaires à leur intrigue. Par exemple, pour faire un empire galactique, on a quand même besoin de se déplacer rapidement. Si on prend l'image de l'Empire romain, il y a plein de raisons sur pourquoi l'Empire romain, enfin, il y aurait plein de raisons qu'un historien plus balèze que moi, plus doué que moi pourrait développer, mais une des raisons sur pourquoi l'Empire romain a pu perdurer aussi longtemps, c'est qu'il était capable de projeter ses légions d'un endroit à un autre de l'Empire en un temps relativement bref pour l'époque, de l'ordre du mois, on pouvait prendre une légion en Espagne et l'amener au Liban actuel, en un temps de l'ordre d'un mois, entre les marches forcées et les navigations, on pouvait projeter ses forces en un temps de l'ordre d'un mois. Donc, ceux qui vous embêtaient au Liban, eh ben, ils avaient un mois pour faire leur affaire. Puis après, il y avait les légions qui arrivaient, et là, ça rigolait pas. Donc, il y a eu bien d'autres choses, évidemment, qui seraient à évoquer pour justifier la longévité de l'Empire romain. Mais voilà, la capacité à se déplacer en un temps bref, alors ça ne veut pas dire grand-chose, bref, quand on le compare au temps des séditions. Les gens, ils avaient, si vous voulez prendre le pouvoir, ça peut être fait en 2-3 jours, mais si vous voulez le tenir, il faut le tenir pendant des années. Oui, mais vous, en un mois, vous êtes là. Donc, dans les empires galactiques, on voit dans Asimov, je dis Asimov parce que lui, il a fait des empires galactiques, mais évidemment, c'est largement pas le seul. En général, ou dans Star Wars, on ne se préoccupe pas trop de savoir comment on va d'une étoile à l'autre, on y va et puis c'est tout. Donc, le temps, c'est aussi s'affranchir de la contrainte du temps. Alors là, la contrainte du temps, tout le monde la connaît. Le temps s'écoule, entre guillemets, du passé vers le futur. On ne peut pas l'arrêter. Là, je vois le cadran qui tourne et qui nous dit qu'on n'a plus que 45 minutes. Il y a des contraintes de temps. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Eh bien, c'est quand même gentil, pratique, de se dire, bah, si je retourne dans le passé, je fais des trucs, je vais dans le futur et je reviens. Voilà, ça, c'est un fantasme aussi. Mais quelque chose qui est porteur d'histoires si fortes que, finalement, la science-fiction s'en est pas débarrassée. À pas dire, bon, ça marche pas, allez, je le jette, et puis tant pis, on va essayer de prendre de la science qui fonctionne.
Mais du coup, tu disqualifierais, donc, comme science-fiction, tout type de roman qui, au lieu d'approfondir les conséquences des lois physiques fondamentales ou des constantes fondamentales, si tu veux, choisirait de les ignorer.
Mais s'il les ignore, ça permet de construire un cadre finalement. C'est de dire et si je peux aller plus vite que la lumière, alors je fais quoi avec ça? Et donc tu te demandes pas trop comment tu fais le plus vite que la lumière. Ou si je suis capable de cloner les humains et que c'est quelque chose qui se vend et ça coûte 100 000 euros. Alors c'est quoi la société? Ce qui est intéressant, c'est le raisonnement, la discussion, posant le cadre, de tirer la ficelle et de dire, et alors qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau cadre? Alors bien sûr, parfois ce cadre-là prend comme contexte des lois juridiques. C'est-à-dire, et si j'ai tous les ans, il y a un jour par an, une nuit par an, j'ai le droit de tuer mon prochain impunément? Il y a un film dont j'ai oublié le titre qui est sorti sur cette histoire-là.
Nouvelle de Robert Silverberg aussi.
Si j'ai le droit de tuer mon prochain impunément une nuit par an, dans une sorte de débauche, de violence, et après le reste du temps c'est interdit. Donc ça change radicalement par rapport à tu ne tueras point ou par rapport au cadre juridique de ce que c'est le meurtre dans notre société actuelle. Donc voilà, c'est changer ces lois, changer le cadre et d'en tirer des conséquences. Et c'est ça qui est intéressant, et ça se rapproche d'une certaine façon de l'expérience de pensée en science. Mais ça, on va en parler ce soir. Il y a Jean-Marc Lévy-Leblond que je vois assis au premier rang, attentif. On va en parler dans une table ronde sur finalement la part de fiction qu'il y a dans la science. Maintenant, on rentrera plus dans le côté de science, mais la part de science, nous, on regarde plus la part de science ou de droit, de loi qu'il y a dans la fiction.
Alors, pour te répondre sur plusieurs points, donc effectivement, ce qu'il vous a dit finalement sur les lois physiques, c'est à la fois d'une part l'approfondissement des lois physiques dans le récit de science-fiction permet finalement d'ouvrir de nouvelles potentialités dans le respect de ces lois physiques, ou alors de partir sur une hypothèse, c'est-à-dire et si, par exemple, la vitesse de la lumière n'était pas une limite, etc. Du point de vue des lois juridiques, et on va revenir après sur la notion de loi, mais là on part vraiment sur les effets, sur les buts de ces lois, on est dans un contexte, je dirais, radicalement différent. C'est-à-dire qu'on part d'abord de l'hypothèse, en se disant, sans considérer les lois existantes, en se disant, et si le système juridique, et si le système législatif fonctionnait de manière complètement différente, ou en tout cas reposait sur des textes complètement différents. Ce qui signifie que dans un premier temps, lorsqu'un auteur crée un nouveau monde, et lorsqu'il crée un ordre social, qui est quand même l'un des fondements aussi de la science-fiction, puisque les personnages principaux de la science-fiction sont toujours des sociétés, ce sont toujours ce que Gérard Klein appellerait des subjectivités collectives, c'est-à-dire une subjectivité d'une société en tant que telle. Chaque auteur a la nécessité d'imaginer ou de proposer un ordre social, qui peut être aussi une forme d'anarchie, mais qui est bien souvent plutôt un ordre social. Alors, du coup, on a d'abord une très grande diversité, c'est-à-dire que la loi juridique dans l'imaginaire, la loi juridique dans la fiction, elle part du principe avant tout d'une absolue liberté. On va par exemple imaginer des empires galactiques, on va imaginer des sociétés totalement anarchistes, voire des sociétés hédonistes, comme par exemple le très beau cycle de la culture de Yann Banks, qui est plutôt une société où l'autorité est vraiment minimaliste, voire déshumanisée, puisqu'elle est confiée à des intelligences artificielles qui gèrent absolument tout, hein, dans les institutions comme dans la vie judiciaire de la culture. Ou alors on a des empires galactiques, comme par exemple celui de Isaac Asimov, qui effectivement s'inspire de la chute et du déclin de l'Empire romain, pas tellement à dire vrai de la chute et du déclin de l'Empire romain tel que cette chute et tel que ce déclin ont eu lieu, mais plutôt d'une lecture un peu datée d'Edward Gibbon, qui était un historien qui a écrit justement l'histoire du déclin de l'Empire romain.
Donc, excuse-moi Hugo, là, je me permets de t'interrompre. Sur cette histoire de fondation, finalement, du cycle de fondation, il y a deux points intéressants. D'abord, l'inspiration, il s'inspire de l'histoire, de la chute des clans de l'Empire. Il a besoin de faire un empire, donc d'une certaine façon, il viole certaines lois de la physique, puisqu'il dit il faut que les vaisseaux se déplacent en un temps raisonnable, disons. Raisonnable, ça veut dire très court devant la durée de vie humaine, finalement, d'une étoile à l'autre. En même temps, il crée, en s'inspirant de la science, en s'inspirant, disons, des lois de la thermodynamique, de ce que nous savons décrire des gaz comme un comportement général, mais sans savoir ce qui se passe individuellement, il crée cette psychohistoire, cette discipline mathématique imaginaire qui est censée capable d'écrire le futur, l'évolution, la structuration des humains pris dans leur ensemble, un grand groupe humain, des milliards de milliards d'humains qui peuplent cet empire galactique. Et il part de ces lois de la thermodynamique, disant, regardez, sans être capable dans un gaz, dans un litre de gaz, de décrire le mouvement individuel de chaque particule, je peux, par des méthodes statistiques, je peux décrire la pression de ce gaz, la température de ce gaz, la densité de ce gaz et son évolution, si je le comprime, si je le dilate, je peux décrire son évolution sous certaines influences extérieures, ou son évolution spontanée éventuellement. Alors je peux faire la même chose pour les humains, donc là, il fait un saut conceptuel considérable. Et on voit que là, en créant, finalement, il crée une nouvelle discipline, il crée une nouvelle, de nouvelles lois. Une nouvelle science humaine. Enfin, science humaine, et en même temps, il y a des mathématiques dedans, il y a des calculs. Et ça a des conséquences juridiques, parce que, forcément, ou des conséquences sur l'organisation sociale, donc juridique. Parce que si vous êtes capable de prévoir l'évolution d'une société par un certain nombre de mesures macroscopiques, vous mesurez, je ne sais pas quoi, mais la violence, la fécondité, je ne sais pas moi, plein de choses à mesurer. Et de ça, vous pouvez imaginer un chemin évolutif qui n'est pas évidemment précis, qui a une certaine peut-être barre d'erreur, puisque vous parlez de grand nombre, vous estimez que plus le nombre est grand et plus la barre d'erreur sera petite, plus vous aurez d'informations et plus la barre d'erreur sera petite. Mais du coup, ça change complètement les lois. C'est plus.
Mais c'est même
il y a une sorte de prédictibilité du comportement social.
Par conséquent, c'est même une négation de la loi. C'est-à-dire que la psychohistoire, on vient finalement à rendre toute loi déterministe. C'est-à-dire que dès lors que la psychohistoire est capable de prévoir l'évolution de l'humanité à longue échelle, finalement,
en tant que structure, pas des individus,
finalement, les lois ne pourront que converger vers la confirmation de ce qu'a prévu la psychohistoire. Alors, ce cas est intéressant, mais c'est plutôt un cas où la science physique, la loi physique, surdétermine la loi juridique. Alors, ce que je voudrais moi montrer, c'est que bien souvent dans la science-fiction, il y a une très grande liberté justement de système juridique. Et d'où vient cette liberté? À mon avis, elle est très claire pour moi, en tant que à la fois auteur de science-fiction et historien des idées et historien du droit. Cette image qu'on a d'une grande diversité de systèmes sociaux, d'une grande diversité de systèmes juridiques dans la science-fiction, elle vient de la date même de la naissance de la science-fiction. C'est-à-dire que cette science-fiction, en tant que littérature, en tant que corpus, elle est née au XIXe siècle. Elle est née plutôt dans la deuxième partie du XIXe siècle. Si on prend par exemple une date symbolique qui est 1863, le premier voyage extraordinaire de Jules Verne, 5 semaines en ballon, la science-fiction se structure à une époque où la révolution industrielle est passée par là, et où on est dans une époque de ce que Auguste Comte appelait le positivisme. Positivisme qui est l'idée selon laquelle il n'est de valeur que d'homme, et donc toute société a des valeurs qui lui sont propres, qui lui sont relatives. Positivisme, chez Auguste Comte et chez la plupart des juristes du XIXe siècle, qui est la négation très nette, et datée aujourd'hui dépassée, d'un droit naturel. Le positivisme, c'est le contraire d'un droit naturel, c'est le fait de dire chaque société peut faire, se doter, quelles que soient les méthodes, d'un corpus de lois qui va être adapté à sa nature, adapté à ses valeurs, adapté à ses choix de société, à son modèle politique, etc. La science-fiction, elle est marquée, je ne porte pas de jugement de valeur, hein, mais on pourrait dire qu'elle est tachée, mais ce serait un jugement de valeur, elle est marquée par la domination du positivisme juridique qui a marqué le XIXe siècle et le début du XXe, on va dire entre 1860 et la Première Guerre mondiale. Cette idée selon laquelle la technique juridique était capable de façonner un corps social en tant que tel, en faisant fi complètement du droit naturel. Droit naturel que les Romains avaient considérablement développé. Alors ça nous donne, dans la réalité des systèmes fascistes, et je vous rappelle à tous que les systèmes fascistes sont des systèmes juridiques. Il a existé un droit nazi parfaitement clair, avec des sanctions parfaitement claires, et des lois qui correspondaient en tout point à ce qui est la définition juridique de la loi, c'est-à-dire une loi abstraite, générale et permanente, on va y revenir, d'application large, d'application générale et sanctionnée par l'État. Hein. Donc la science-fiction a reflété, je pense, très largement l'idée selon laquelle une société peut partir de zéro et se structurer autour d'un corps de loi en faisant fi complètement de la nature. Et même pendant très longtemps, dans les facultés de droit, on a enseigné pendant très longtemps que le système juridique positif, avec un évolutionnisme inspiré de Darwin, que le système juridique positif était l'aboutissement de l'évolution du droit, et que par conséquent, plus on prenait de liberté par rapport à la nature, et plus on était dans un droit évolué ou dans un droit civilisé, avec les contre-champs que ça a produit. Alors je prends deux exemples, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est une œuvre magnifique et qui montre un système juridique dans lequel toute culture est balayée par un système de loi pénale très strict où les pompiers sont en quelque sorte la police de la pensée. Autre exemple, Orwell, hein, George Orwell, 1984 aussi, avec une sorte de codification minimaliste dans les trois maximes, hein, l'ignorance c'est la force, la paix c'est la guerre, etc. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe plus. Je pense que la science-fiction est le reflet de la société, et cette idée selon laquelle les lois juridiques pouvaient s'affranchir complètement de la nature est dépassée. L'un des précurseurs, je crois, c'est Frank Herbert. Dans le cycle de Dune, et en particulier dans les deux premiers tomes de Dune, on a un système social complexe, mais particulièrement original par le fait que son système législatif, son système politique, son système constitutionnel est profondément marqué par une imprégnation de la nature et de ce que la nature peut offrir à l'humanité. Hein, donc, première chose, moi, il me semblait qu'on partait sur des choses au départ qui étaient radicalement différentes, c'est-à-dire, d'un côté, une contrainte sur les lois physiques qui pèsent sur l'auteur de science-fiction, et de l'autre côté, une absolue liberté, une absolue licence qui permettait d'imaginer tout système juridique, tout type de système juridique, qui était le reflet, et moi ça c'est un leitmotiv pour moi, de l'environnement social, politique et juridique dans lequel ont baigné les auteurs de science-fiction dont ils se sont emparés comme des éponges et qu'ils ont reflété. En somme, la science-fiction de la fin du XIXe siècle est profondément, viscéralement positiviste.
Je reviens sur cette histoire de contrainte que la science impose, enfin en tout cas que la science dans l'état où elle est, où les auteurs écrivent, impose à ses auteurs. Ça peut être aussi créatif pour eux, c'est-à-dire que si on veut construire un empire galactique, on peut comprendre, encore une fois, je reviens sur cette vitesse de la lumière, qu'on a envie de s'affranchir de tout ça et d'aller vite, d'une étoile à une autre, enfin vite en un temps court, devant la durée de vie humaine. Mais en même temps, si on se dit, bon ben tant pis, on va essayer de faire quelque chose qui respecte ce que l'on sait en physique, alors du coup, si on dit banco, ça oblige à réfléchir à une organisation qui tient compte de ça, et sachant que quand un vaisseau se déplace à une vitesse grande, mais plus petite que la lumière, mais grande et plus petite que la lumière, les gens qui sont dans ce vaisseau vont mesurer des durées pour leur voyage. La durée de leur voyage va leur être différente de la durée qui est mesurée par les, ceux qui sont restés sur la planète de départ ou ceux qui les attendent sur la planète d'arrivée. Et donc, il y a ce que les auteurs de science-fiction appellent souvent le déficit temporel, ce qu'en physique, on appelle la dilatation des durées. Le fait donc que le voyage apparaîtra plus court pour ceux qui sont dans le vaisseau par rapport à ceux qui sont restés sur la planète ou qui attendent sur la planète de l'autre côté, la planète d'arrivée. Eh bien, il y en a qui jouent avec ça et qui imaginent un système politique où justement les sénateurs, les représentants des planètes, sont en déficit temporel permanent et eux peuvent, contrairement à ce qui se passe pour nous, ceux qui sont les responsables politiques de ces planètes peuvent vivre beaucoup plus longtemps que les citoyens de ces planètes, en ce sens qu'eux, ils sont constamment en train de se déplacer à grande vitesse, mais plus petite que celle de la lumière, constamment en déficit temporel, et se retrouvent à pouvoir finalement transcender. On a les responsables politiques, alors je ne sais pas si c'est une bonne solution dans la vraie vie, mais les responsables politiques vivent beaucoup plus longtemps, entre guillemets, peuvent agir beaucoup plus longtemps que les citoyens ou que les sociétés dont ils ont la responsabilité. Je ne sais pas si, quand on voit nos politiques, c'est souhaitable, mais voilà. Et on peut imaginer donc un système politique où ça se passe comme ça. Et il y a une œuvre de Charles Strauss a fait des œuvres où je ne sais plus, j'ai oublié le titre, mais où il respecte cette chose-là, cette contrainte-là, et il essaie quand même d'imaginer une structure politique qui va avec. Alors après, il y a évidemment besoin de communiquer entre les différentes instances politiques qui se déplacent en permanence à fond la caisse, si j'ose dire, entre les différentes planètes de la Fédération. Alors là, il invoque quelque chose qui s'appelle la téléportation quantique. Il faut quelque chose qui aille quand même plus vite que la lumière pour communiquer, sinon les gars, ils n'arrivent jamais à discuter entre eux. Donc à un moment donné, il y a une petite subtilité où il a l'air de donner, c'est ça qui est intéressant, il a l'air de dire, ben non, regardez, je respecte la loi, je respecte la loi physique. Et en même temps, quelque part d'ailleurs, alors, cette téléportation quantique, c'est des mots qui font buzz, enfin c'est une physique, c'est de la physique qui existe vraiment, l'idée que l'on peut agir sur l'état d'un système indépendamment en un temps nul, indépendamment de la, ou quasi nul, indépendamment de la distance qui vous en sépare, sauf que vous ne connaissez pas la réponse à l'arrivée, donc en même temps on ne viole pas la physique relativiste, la physique habituelle telle qu'on la connaît maintenant. Mais lui, il joue avec ça, mais du coup finalement, c'est une astuce, il cache sous le tapis, au lieu de mettre devant, allez, on va plus vite que la lumière, et puis voilà. Alors les gens ils disent, bon d'accord, tu nous as roulé. Il cache sous le tapis, dans un truc de second ordre finalement, la nécessité qu'il a pour que cette instance politique puisse communiquer entre elles, de discuter ou de pouvoir échanger de l'information plus vite que la lumière. À l'inverse, un autre auteur, Poul Anderson, a écrit dans les années 70 un roman qui s'appelle Taux Zéro. Alors là, c'est assez différent. Il a cherché vraiment à faire quelque chose, encore une fois, de scientifiquement réaliste. Un vaisseau qui va plus vite, plus lentement que la vitesse de la lumière. Des passagers. Il a été réédité en français récemment, ils ont le Bélial, Taux Zéro. Je vous en recommande la lecture. C'est un roman des années 70, mais qui cherche vraiment à coller la physique. Il y a des choses très intéressantes dedans. Donc le vaisseau peut accélérer en permanence. Il ramasse dans le milieu interstellaire, il ramasse les atomes nécessaires aux réactions de fusion thermonucléaire qui le propulsent. Donc plus il va vite et plus il en ramasse. Donc c'est une sorte de vaisseau auto-entretenu. Mais le système qui lui permet de décélérer et de s'arrêter pour arriver à son objectif tombe en panne et le vaisseau est condamné à accélérer en permanence. Sa vitesse s'approche infiniment près de celle de la lumière sans jamais la dépasser, infiniment près de la vitesse de la lumière. Et donc ce que les auteurs de science-fiction appellent le déficit temporel, la dilatation des durées, devient infinie. Alors lui, le tau dont il parle, cette lettre grecque tau, représente le temps propre, le temps des passagers du vaisseau. C'est la notation qu'utilisent les physiciens pour désigner le temps propre, celui des passagers du vaisseau. Et ce temps propre tend vers zéro, c'est-à-dire que quand eux, il leur passe une seconde, eh bien, il s'est passé des millions d'années pour la Terre. Et on voit toutes les conséquences que ça implique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il accepte la contrainte. Alors évidemment, il a un vaisseau qui est un peu curieux, qui peut accélérer tout le temps, ce qu'on ne sait pas faire. Mais si on prend ce vaisseau, donc il pousse un peu quand même la physique dans ses retranchements de ce côté-là, pour dire le moins. Mais le vaisseau va toujours moins vite que la lumière. Et en même temps, il envisage des conséquences de ça. Il va moins vite, mais il accélère tout le temps. Et autrement dit, il s'en rapproche infiniment près. Le temps propre des passagers du vaisseau devient extrêmement la dilatation des durées. Le rapport qu'il existe entre le temps propre des passagers et le temps des terrestres tend vers l'infini, ou l'inverse tend vers zéro, taux zéro. Et donc, il se retrouve à réaliser, il dit, bon, on est en panne. Bon, d'accord, on n'en peut plus décélérer. On va réfléchir à comment réparer ça. Et au bout de 3 semaines, ils se disent, on n'a toujours pas trouvé la réponse. Et il y en a un qui réalise, mais en 3 semaines, il s'est déjà passé 20 000 ans sur Terre. Si on freine et qu'on revient, on est foutu. On est déjà plus dans le temps où nous sommes partis. On a fait une manière de voyage dans le futur avec un voyage tout à fait pertinent, mais qui est avec un aller simple. Ils ne pourront pas revenir dans leur passé. Et puis, au bout de 3 semaines, c'est pas réglé. Et puis, ils se rendent compte qu'à la fin, tellement leur vitesse approche tellement de celle de la lumière, qu'ils se retrouvent dans une situation où chaque seconde qui passe, ce sont des milliers, des millions d'années qui se passent sur Terre. Donc, je ne vous dévoile pas la fin du roman, évidemment, c'est intéressant. Ils se retrouvent à vivre en un temps humain des échelles cosmiques, des échelles de temps de milliards d'années. Et donc là, voilà, on voit où une contrainte, si on la respecte jusqu'au bout, c'est un peu comme l'Oulipo, comme la littérature à contraintes. J'ai l'Oulipo parce que ça me tombe sous le sens, mais si on s'impose des contraintes, je veux 12 pieds par vers et des rimes à la fin. Ça fait quelque chose qui, en imposant une contrainte, peut ouvrir des espaces de créativité. Donc les lois de la physique, évidemment, contraignent. La physique contraint, on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut la respecter. Mais en même temps, si on se décide à la respecter jusqu'à un certain degré, parce qu'évidemment, on est dans l'imaginaire, évidemment, à un moment donné, on ne peut pas être cohérent parfaitement, parce que sinon, les vaisseaux qui accélèrent tout le temps, on ne sait pas les faire. On ne sait même pas comment on fait la machine. Mais, donc, à un moment donné, on se permet la licence poétique, mais n'empêche que si on essaie d'accumuler le maximum de contraintes, on peut néanmoins avoir une liberté créatrice dans ce cadre-là.
Très bien. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai que si on fait la même chose avec des systèmes juridiques et qu'on les pousse dans leurs infinis ou infimes retranchements, on a quelque chose qui est de l'ordre de la dystopie ou de l'utopie. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de la science-fiction, ce qu'on va faire avec les lois juridiques, si on pousse par exemple un système juridique jusqu'à son absolue absurdité, c'est-à-dire si on l'interprète... Ou plutôt non, si on en refuse toute interprétation, si l'on fait une vision, si on en a une vision absolue, absolument intangible, on va arriver à des sociétés qui sont des sociétés évidemment totalement invivables et totalement inenvisageables. Du coup, le parallèle de ce jeu de la liberté d'aller pousser une loi physique à son extrême, sur la loi juridique, ça serait plutôt la révélation de l'absurdité des lois et de l'absurdité du droit dans les confins. C'est-à-dire qu'évidemment, vous le savez très bien, la science-fiction est une littérature à tendance utopiste, c'est-à-dire qu'elle est aussi finalement l'héritière des utopies du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Et lorsqu'elle crée des systèmes sociaux ou des systèmes juridiques extrêmes, évidemment qu'elle n'est pas là comme... elle n'a pas un rôle de prophétisation. Elle ne dit pas « ce système social va arriver », elle essaye de montrer simplement que le droit envisagé comme un absolu, indépendamment de toute autre forme d'interprétation, ne peut déboucher que sur une société totalement absurde. Donc on est finalement ici dans une exploration des confins qui, d'un côté, montre une liberté possible et qu'à l'inverse, finalement, du point de vue du système juridique, aller chercher la dystopie totale dont on sait très bien qu'elle n'adviendra jamais, puisqu'elle est une absolutisation d'un regard sur le droit, permet aussi, au contraire, de montrer, de servir de rôle d'avertissement, plutôt qu'ici, de rôle de libération. Alors, moi, ce que j'aurais aimé voir aussi, c'est la notion de la validité. La notion de la validité, moi, elle m'intéresse beaucoup par rapport, en tant qu'auteur de science-fiction, juriste, et en tant que partenaire ici, face à un physicien, c'est quelle est la validité d'une loi physique ? Et comment bascule-t-on d'une loi physique à une autre loi physique ? En gros, en science, on dit qu'il y a révolution scientifique ou il y a changement de paradigme au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout d'un moment où le consensus ou l'opinion dominante va finalement déclarer dépertinente ou dépertinent une certaine interprétation du monde, une certaine lecture du monde.
Ça peut être une opinion, évidemment, mais ça peut être aussi une
expérience.
Mais qui peut être liée, parce que c'est là aussi la spécificité de la physique, peut-être par rapport aux lois juridiques, c'est que elle se fonde, il y a un empirisme qui fait qu'on fait des expériences, des observations, et de ces expériences d'observation motivent éventuellement une réflexion sur la façon dont les choses se passent.
Oui.
Alors que, est-ce qu'on fait des expériences juridiques, par exemple, sur une question ?
Très bonne question. Comment ? Alors, on peut commencer par ça, peut-être. comment on bascule de la validité d'une loi à une autre. En fait, ça peut se faire extrêmement brutalement. C'est-à-dire que, alors je reviendrai sur la notion d'expérimentation, mais c'est très clair, l'application d'une loi, elle est pleine et entière du moment où la loi est promulguée jusqu'au moment où la loi est abrogée. Et l'abrogation d'une loi se fait en un instant. Il suffit d'un acte unique. Ce n'est pas un ensemble d'expériences qui va le provoquer. C'est une décision d'un corps législatif. Ce corps législatif peut prendre toute forme. Ça peut être une seule personne dans le cadre d'une autocratie, par exemple, qui produit des lois aussi. Mais ça peut être aussi un ensemble de votants, un parlement qui va déclarer que cette loi est abrogée et remplacée par une autre. Ce qui fait qu'une loi politique ou une loi civile va exister et désexister en un seul instant.
Excusez-moi, Hugo, elle peut être aussi motivée par des évolutions sociales. Alors, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps pendant lequel...
Le temps que tu évoques pendant lequel elle va être critiquée, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire qu'une loi va fixer la limite de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et ensuite, le juge, en collectant, en compilant ce qui serait l'expérience scientifique que nous, on appellera ici une expérience ou une occurrence judiciaire, réponse à l'expérimentation scientifique, c'est l'occurrence judiciaire, c'est-à-dire le procès, au fur et à mesure d'un certain nombre de procès, d'un certain nombre de jurisprudences éclairées par le juge, la loi va de plus en plus paraître obsolète, paraître inadaptée à la nouvelle société, et donc finir par provoquer le besoin de la remplacer. Mais la loi reste loi tant qu'elle n'est pas abrogée. Alors que peut-être, en science, au-delà d'un certain degré d'expérimentation, avant même qu'une nouvelle loi soit formulée, il y a cette espèce de no man's land entre la dépertinence de l'ancien système. Et,
en science, c'est compliqué. Il y a beaucoup de situations possibles. Mais il se peut que un exemple qui tombe sous le sens que je vous indiquais, qu'il y a des lois, ou des visions du monde, des descriptions du monde qui peuvent tomber, devenir obsolètes, pas du jour au lendemain, mais qui deviennent obsolètes. Par exemple, la vision du monde qu'Aristote fondait sur les quatre éléments, elle, à un moment donné, elle était obsolète. Ça ne s'est pas fait brutalement, évidemment. Ça s'est fait, il a fallu 20 siècles d'abord pour que ça commence à être discuté un peu sérieusement. Et puis, ça a pris un temps pour qu'on passe à autre chose. Donc, ça ne se fait pas brutalement. Mais une fois qu'elle est déclarée obsolète, elle l'est. C'est-à-dire... Je pense que dans le système juridique, on pourrait revenir à l'ancienne loi. Il suffirait de faire un autre acte législateur pour revenir à la loi ancienne. En physique, une fois qu'on a décidé que quelque chose, une fois que c'est décidé au sens expérimental, de la réflexion, de la construction, donc ce n'est pas une décision brutale, ex nihilo, et puis on peut la revenir ailleurs, on ne revient pas en arrière. On a décidé que ce...
Tu veux dire que la fausseté d'une loi, elle est définitive.
Exactement.
Si elle est reconnue.
Quand on a montré que quelque chose ou qu'un mode de représentation du monde physique était faux, il ne convenait pas, n'était pas satisfaisant, il n'est pas satisfaisant, point. C'est fini, c'est réglé. Ça peut prendre du temps pour se faire. Il peut y avoir encore des réminiscences. Comme disait je ne sais plus qui, les nouvelles idées ne vainquent pas forcément par la force de leurs arguments, mais par le décès de leurs adversaires. Donc à un moment donné, ça finit par, voilà, on passe à autre chose. Éventuellement, on passe à autre chose. Mais il y a aussi des cas où les visions, les descriptions du monde ne sont pas considérées comme obsolètes, mais qu'on se sent considérés comme plus restreintes. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appliquer à une énorme classe de phénomènes en tout lieu et en tout temps, par exemple la loi universelle de gravitation de Newton, on se retrouve à avoir une loi qui a un champ d'application qui est plus restreint. Elle n'est pas déclarée comme fausse, elle est déclarée comme plus restreinte. Elle ne s'applique pas à toute situation. Par exemple, les lois de Newton ne peuvent pas, ou de la gravitation de Newton ne s'applique pas dans des situations où les vitesses sont proches de celles de la lumière, ou dans les situations où le champ gravitationnel, ce que Newton appelle le champ gravitationnel, est intense, par exemple au voisinage de l'horizon d'un trou noir. Pour décrire ces situations extrêmes, elles se retrouvent englobées dans un corpus plus large, dans une théorie plus large qui s'appelle la relativité générale, qui a été fondée par Einstein, ou proposée par Einstein en 1915. Et donc la loi n'est pas déclarée comme obsolète, simplement un champ d'application plus restreint. Voilà encore une autre situation. Il y a une dernière, c'est qu'il y a des choses considérées comme des lois, c'est-à-dire quelque chose qui permet de décrire des faits empiriques, de dire, ça a été le cas, par exemple, sur la chute des corps. On comprend la chute des corps, où pourront tomber des pierres, quelle vitesse elles ont au bout d'une seconde, deux secondes, trois secondes, quelle distance parcourue au bout d'une seconde, deux secondes, trois secondes, peut avoir une loi qui décrit ça, une formule. Ça peut être aussi, alors il y aurait à dire aussi sur loi, formule. Bon, vous avez quelque chose qui vous permet de décrire correctement la chute des corps, mais qui finalement n'est qu'une loi empirique, mais que vous pouvez comprendre, expliquer et rendre compte par quelque chose qui est plus profond, plus général, qui est par exemple la gravitation de Newton. Donc vous comprenez simplement que la vitesse, par exemple, est proportionnelle au temps de chute. Vous comprenez que la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps de chute, par exemple. Mais ce sont des constatations qui vous permettent de finalement d'avoir une sorte de mainmise quand même. Vous avez formalisé. Alors, on pourrait parler aussi du langage des lois. On va en parler après, j'imagine, si on a encore du temps. Mais le langage mathématique permet de formaliser ces lois, la loi de la chute des corps, par exemple. Mais ensuite, le langage mathématique, d'une part, et la compréhension que ces lois de chute des corps s'appliquent aussi bien au corps qui tombe là devant vous, mais aussi bien à ce qui apparaît bizarre. Mais la chute de la Lune sur la Terre, contrairement aux apparences, la Lune chute sur la Terre, mais elle ne la touche pas. Enfin, on pourrait discuter là-dessus, mais en tout cas, voilà, qu'elle s'applique aussi à la Lune, et qu'il y a une loi derrière ça, une plus profonde, qui permet de rendre compte à la fois de la chute de la Lune sur la Terre, mais qu'en même temps, elle ne tombe pas dessus. Elle ne tombe pas au sens où elle ne cogne pas. Et qu'en même temps, la pierre, elle tombe sur la Terre et la loi de chute de la pierre sur la Terre, on peut l'enfermer dans une formule mathématique. Il y a quelque chose qui rend compte de tout ça à la fois. Et donc, il y a des paires de transitions où on est capable d'enfermer certains faits empiriques dans une formule, dans une loi. C'était vrai aussi dans les atomes. Hein, les lumières, la spectroscopie des atomes, la lumière émise par un atome quand il se désexcite ou quand on l'excite, on le chauffe, on le secoue d'une certaine façon, on l'électrise, enfin on le met dans un champ électrique et puis on voit, il émet de la lumière. La lumière émise, elle n'a que des longueurs d'onde particulières, elle ne peut pas être n'importe quoi. Et on avait enfermé cette lumière émise dans une formule qui a donné naissance ensuite à toute la physique quantique, la compréhension de cette formule, pourquoi c'est cette formule et pas une autre et comment ça fonctionne, a donné naissance en particulier à la mécanique quantique. Voilà, on a d'abord des faits empiriques, on enferme dans des lois, mais qu'ensuite on espère rattacher ou créer une théorie pour ça, pour les comprendre plus généralement, ou les rattacher à une théorie déjà existante. Donc il y a un peu, peut-être j'en oublie, mais il y a au moins, c'est les choses qui viennent à l'esprit, c'est trois effets qui se produisent dans l'évolution des lois de la physique. L'obsolescence, l'intégration dans un corpus plus large, l'intégration dans un corpus plus large est donc une restriction de son champ d'application, et puis quelque chose qui est posé là, qui fonctionne. Mais bon, on ne sait pas comment. Enfin, on aimerait en savoir plus. On aimerait savoir si ça ne s'insère pas dans une théorie à construire et qui rend compte de ce phénomène de manière plus profonde.
Alors, tout ça est très intéressant parce que, en fait, d'abord, ce que nous dit Roland, c'est qu'il y a donc une forme de hiérarchie, finalement, des lois physiques aussi. Et il y a, alors, ça serait un point de contact, un point qui irait montrer la scientificité du droit dans un premier temps, c'est qu'il y a aussi hiérarchie des normes hein, dans nos systèmes juridiques. Vous savez, obscurément ou directement, parce que vous avez étudié le droit, qu'une loi civile et une loi politique sont deux choses différentes. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, une constitution, ce qu'on appelait auparavant des lois politiques ou des lois fondamentales à l'époque monarchique, dans l'Ancien Régime, sont des principes fondamentaux qui conditionnent, parce qu'ils sont réputés universels, l'écriture et l'application de toutes les lois spécifiques qui vont s'appliquer à tel ou tel domaine du droit des personnes ou du droit des biens. Donc cette idée de hiérarchie normative pourrait, dans un premier temps, peut-être entériner le fait que loi physique, loi juridique, il y a corrélation. Je vais quand même émettre un bémol très fort. La réversibilité du droit, je pense, l'écarte radicalement des lois physiques. Roland Lehoucq vous montre, vous dit qu'une fois qu'une loi est déclarée fausse, cette fausseté est absolue. Elle est définitive, elle est universelle. En droit, ça n'arrive jamais. Le faux et le vrai, et indirectement dans des modèles sociaux, le bien et le mal, sont toujours sur un curseur que le droit fait bouger. Ce qui est jadis interdit devient licite, et ce qui est licite aujourd'hui n'est pas garanti comme ad vitam aeternam, de façon transcendante, licite. Hein, c'est-à-dire que dans un droit positif, lorsque par exemple on va donner un droit supplémentaire aux personnes par une loi civile, conforme à une constitution, il est possible que cet acquis soit perdu. Il y a donc une réversibilité qui n'est pas quantique, hein, puisqu'il n'y a pas les deux états en même temps. Il y a une réversibilité du droit qui fait que pour le droit, la véracité est toujours absolue alors que la fausseté est toujours temporaire. C'est-à-dire que quelque chose est faux tant qu'une loi ne le dit pas vrai. Les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier. Aujourd'hui, le mariage homosexuel est légal, existe comme une catégorie à part entière dans le système juridique et dans le droit des personnes. L'adoption avait des régimes différents. Aujourd'hui, l'adoption a un régime d'adoption légitime ancré dans le code civil qui n'existait pas auparavant. Hein, donc attention, il faut que vous, et c'est un message que je voudrais vraiment vous faire passer dans cette table ronde, méfiez-vous d'un discours qui consisterait à dire le droit est meilleur s'il est plus proche de la science. Le droit est une science humaine avec tout ce qui en fait la quintessence. Et scientifiser le droit n'est pas nécessairement une chose positive, car ça consisterait à dire que lorsque le droit déclare quelque chose de vrai, alors à ce moment-là, ce qui était vrai auparavant et qui devient faux l'est devenu absolument sans retour en arrière possible. Or, le droit, tout à l'heure j'ai un peu attaqué le positivisme, mais le droit est quelque chose qui pétrit la condition humaine. Et la condition humaine, elle est physique, mais elle est aussi morale. Et la morale est en constante évolution. Hein, donc attention, et là je vais poser vraiment un point de divergence pour moi. Loi physique, loi juridique, il n'y a pas identification. Il y a des hiérarchies communes, il y a des modes d'application qui ressemblent. La loi physique, elle est comme la loi juridique, générale, abstraite, permanente. À ceci près que la loi juridique est sanctionnée par l'État. Hein, lorsque vous commettez une sanction, vous êtes sanctionné pour une infraction à la loi, c'est l'État qui vous sanctionne, alors qu'il y a une sanction, je dirais, plus intellectuelle, plus de la communauté des scientifiques, lorsqu'une loi physique
nature,
est pas respectée.
Si vous pensez que les flammes ne sont pas chaudes, vous pouvez
la nature vous sanctionne.
Voilà. Et vous verrez le résultat. C'est vrai que dans la physique, il y a une... Voilà, c'est-à-dire, si vous vous jetez d'un immeuble, vous allez tomber. Il y a une sanction immédiate et irréversible d'une certaine façon, si vous arrivez en bas en morceaux. Oui, les lois de la physique, les lois de la physique ou de la nature, il faudrait discuter même cette notion-là qu'on n'a pas eu le temps de faire.
Oui.
Elles sont intangibles. C'est-à-dire que les lois humaines n'auront pas raison, qu'elles soient économiques d'ailleurs ou juridiques, n'auront pas raison contre les lois de la nature.
J'ai un contre-exemple.
Ah.
J'ai un joli contre-exemple. Il nous reste encore un petit peu de temps, puis on prendra les questions. Je le fais court. Il y a quelque chose de magnifique qui est un triomphe intellectuel du droit sur la science. Ce triomphe intellectuel du droit sur la science physique, c'est ce qu'on appelle la fiction juridique. Et la fiction juridique, elle n'est pas très loin de la science-fiction. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'une fiction juridique ? Il y en a partout autour de vous, absolument partout, vous n'avez même pas conscience. La fiction juridique, c'est postuler que quelque chose est vrai en droit, alors même qu'il n'a aucun fondement dans la réalité, dans les faits, aucun fondement physique, aucun. Un exemple, dans l'Ancien Régime, le roi de France est toujours majeur. Vous connaissez cet adage, vieil adage, le roi est mort, vive le roi. On prétendait que le roi de France était né majeur pour lui donner les moyens juridiques de gouverner. C'est une fiction juridique qui consistait en fait à permettre au roi de gouverner même s'il n'était qu'un enfant. Alors, en pratique, personne n'était fou. Qui aurait donné le pouvoir politique à un enfant de 5 ans ? Donc on avait ce qu'on appelait, vous en avez tous entendu parler, un système de régence. La régence, qui est le régent ou la régente ? C'est celui qui gouverne pendant que le roi est mineur. Mais tous les actes juridiques, toutes les ordonnances étaient signées de la main du roi. On y a posé le sceau royal. Et je défie quiconque parmi vous de trouver un seul acte juridique d'Ancien Régime signé du nom d'un régent. Ça n'existe pas. En droit, juridiquement, celui qui gouverne, c'était le roi. Et pourquoi ? Parce qu'il était majeur. La fiction juridique, c'est l'adoption. Vous adoptez un enfant, c'est votre enfant. Même si biologiquement il n'a aucun patrimoine génétique commun avec vous, vous l'adoptez en adoption légitime, il devient votre enfant. Les fictions juridiques créent des situations qui n'ont aucun fondement physique. Et donc attention, Là encore, méfions-nous de la scientificité du droit. Le droit est capable de déclarer vrai quelque chose que la science sait radicalement faux. Et c'est ce qu'on voit aussi souvent dans la science-fiction. Hein, on va déclarer, on va postuler des choses vraies. Par exemple, on va postuler tel ou tel système juridique comme celui que tu citais de Robert Silverberg, où on va permettre à une personne, une fois dans l'année, une fois par an, de tuer toute personne en étant en parfaite impunité pour servir en sorte de déversoir de l'agressivité contenue dans la société.
J'en pense à un autre qui est de Pierre Pelot, qui est la guerre, enfin, un vieil ouvrage de Pierre Pelot qui s'appelle « La guerre olympique », où le problème des guerres entre populations est réglé par des Jeux olympiques annuels, où chaque fois qu'un athlète perd, c'est un certain nombre de membres de citoyens du pays qu'il représente qui meurent. Voilà. Ça règle les problèmes. Voyez. Enfin, ça règle les problèmes. Non, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Une proposition pour régler le problème de la guerre.
Méfiez-vous des scientifiques.
Il faut discuter. Alors, ça,
pas de scientifiques au pouvoir. Les scientifiques au pouvoir, extrêmement dangereux. Les scientifiques dans les laboratoires, dans les labos, les scientifiques.
On n'en voit jamais d'ailleurs au pouvoir.
Les scientifiques disent la vérité, mais surtout pas comment il faut s'organiser.
Ah non, ils disent pas la vérité, justement. C'est bien ça. La vérité scientifique est temporaire.
Scientifique, oui. Voilà, oui. Bah, la vérité pendant un temps.
Voilà, elle est temporaire. Enfin, les choses considérées comme vraies sont temporaires en science. Ou considérées comme utiles, pratiques, pertinentes.
Imaginez, les scientifiques disent des vérités temporaires. Imaginez si vous en faites des juristes. Habitué à donner des vérités définitives et des faussetés temporaires. Si c'est pas le pire des totalitarismes, les scientifiques au pouvoir, non. Les scientifiques sont là pour révéler le monde, certainement pas pour l'organiser, à mon sens. Est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes. Jean-Marc Lévy-Leblond. Et là, je vais me faire éclater, c'est sûr.
Non, pas du tout.
Là. Jean-Marc, pour vous présenter, on va faire une table ronde. Jean-Marc est un physicien, il connaît bien la philosophie. Bon, voilà, il est bon aussi, vous allez voir ce soir.
Non, je voulais juste revenir un peu en amont de votre discussion, parce que j'ai trouvé tout à fait passionnante. Je suis d'accord, au contraire avec Hugo, qui n'est pas en désaccord avec Roland d'ailleurs. Non, la question intéressante, me semble-t-il, qu'on peut poser en amont, c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de loi scientifique? C'est bizarre. Une loi, comme Hugo nous l'a bien expliqué, c'est un acte de pouvoir. Et tu as parlé des lois juridiques. Mais en amont même de la loi juridique, il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale, qui est la loi divine. Au départ, c'est Dieu qui instaure la loi dans l'Ancien Testament, enfin dans nos sociétés en tout cas, hein, dans nos sociétés monothéistes. La loi civile, juridique, découle de la loi théologique et de la loi divine. L'histoire est claire, il n'y a pas besoin de la refaire, c'est tout à fait clair. Mais alors, qu'en est-il des lois scientifiques? Là, c'est très étrange, parce que qui décide, qui a décrété que E égale MC2? Est-ce que quelqu'un a écrit ça un jour? Alors, la raison pour laquelle, me semble-t-il, on parle de lois scientifiques, mais pour laquelle il faut considérer ça comme un abus de langage fort commode et désormais irréversible, mais un abus de langage, c'est que il n'est que de voir d'autres types de civilisations qui ont développé des sciences extrêmement importantes, je pense à la civilisation chinoise, à la grande civilisation arabo-islamique, il n'y a pas de notion de loi scientifique chez eux. Dans la tradition scientifique chinoise, il y a des régularités. La nature se comporte d'une façon à peu près fiable et stable. Mais le mot « loi », avec toute sa charge juridique et théologique, n'existe pas. Comment ça arrive dans la science moderne? Très tard, justement au moment où elle devient science moderne, au XVIIe siècle. Jamais dans la science grecque, ni même dans la science médiévale, on parle de loi de la nature. Et c'est au moment précisément où va se laïciser la connaissance qu'il va y avoir ce transfert depuis l'idée de loi divine vers les lois de la nature, parce que à cette époque-là, Dieu a écrit deux livres. Il y a deux livres. Il y a le grand livre qui est la Bible, qui nous dit comment nous comporter, mais il y a aussi le grand livre de la nature, même chez Galilée. Et donc, l'idée de loi, elle provient directement de ça.
C'est Galilée qui dit que le livre de la nature est écrit en langage mathématique.
En caractère mathématique. Donc, c'est simplement, je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est-à-dire que il faudrait, chaque fois qu'on parle de loi de la nature, il faudrait mettre des guillemets, ou les entendre en tout cas. On ne va pas changer le vocabulaire. Mais il est tout à fait clair que ce n'est pas du même ordre
juridique.
Et d'ailleurs, permets-moi d'ajouter juste un mot. C'est les physiciens qui parlent de loi.
Oui, oui.
Très peu les biologistes, oui. Et encore moins les géologues.
Mais
peut-être les biologistes n'enferment pas ce qu'ils observent, ce qu'ils constatent, dans une formule qui est une sorte de loi. Enfin, on écrit quelque chose et ça traduit le phénomène.
Oui.
Alors, il se trouve que c'est des mathématiques pour les physiciens, mais les biologistes n'ont pas cette possibilité en général.
Mais et pour revenir sur la loi juridique, hein, c'est alors on l'a pas dit parce qu'on voulait pas faire une introduction comme ça, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire que la loi n'est en aucun cas un phénomène universel dans les sociétés. La loi, c'est une production occidentale, et d'où elle vient ? Elle vient simplement du fait que nous avons eu l'impact d'une religion monothéiste très forte, avec un droit qui vient de l'extérieur et qui coiffe la société, et qui en se laïcisant est devenu le droit de l'État, c'est tout. Mais il y a des tas de sociétés où il n'y a pas de loi générale et permanente, il y a plutôt des règles, des rites, des accords, des médiations, et qui ne parlent pas de loi, effectivement. Bien, ben merci à tous pour votre attention et bonne... on attend la musique, faut s'arrêter. Bonne continuation.